Redemptor Jesus Christus.
Ce sera un grand moment de fête. Nous sommes à la veille du jubilé des associations de fidèles, mouvements d'église et communautés nouvelles. Le Saint-Père les a encouragés ce matin à étendre partout la communion spirituelle qu'ils vivent dans leur communauté, à garder vivant le zèle missionnel. Rare bonne nouvelle au Soudan, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Les récentes victoires de l'armée ont permis en effet le retour de 1 million de déplacés dans le pays. Dans ce journal, nous irons au Bangladesh. L'UNICEF s'apprête sur place, faute de moyens, à fermer certaines écoles destinées aux enfants de réfugiés, notamment aux Rohingyas de Cox Bazar. Et puis enfin, la colère des Libanais après des frappes israéliennes hier soir au sud de Beyrouth, le fief du Hezbollah pro-iranien.
Radio Vatican, le journal. Marie Duhamel.
Bonsoir à tous. Dans la ville éternelle, effervescence à la veille de leur jubilé, le pape a reçu les responsables des communautés nouvelles. Il les a encouragés à garder vivant leur zèle missionnaire, à étendre donc partout la communion spirituelle qu'ils vivent à l'échelle de leur communauté. En effet, pour l'Augustin Léon XIV, cette mission d'évangélisation s'appuie sur la vie communautaire. Personne n'est chrétien tout seul, mais elle repose aussi sur les charismes reçus de l'Esprit et confirmés par l'Église. Un encouragement auquel a assisté ce matin au Vatican Michel Bernard de Vrégy, le modérateur de la communauté de l'Emmanuel. Il nous explique comment les communautés nouvelles cherchent à rester fidèles à leur charisme propre pour continuer à enrichir l'Église universelle.
On a tous des étapes à franchir, chacun selon nos mouvements, chacun selon nos communautés. Et c'est très important qu'on les franchisse pour rester fidèles à notre charisme. Mais dans le monde d'aujourd'hui, puisque le monde qui était il y a 50 ans, quand ces communautés ou ces mouvements sont nés, n'est plus le même aujourd'hui. Il peut y avoir des pièges liés à l'orgueil, liés au fait de penser qu'en fait on est les sauveurs de l'Église, alors qu'en fait on en est de l'Église. Et donc on n'est pas sauveur ou pas, on a à l'enrichir dans le charisme qui est le nôtre. On doit avec beaucoup d'humilité, on l'a vu avec la question des abus, on a quand même été notamment en France très marqué par beaucoup de difficultés dans ces domaines, dans les communautés. Donc il faut aussi avancer avec beaucoup d'humilité, mais en même temps avec cette certitude que ces charismes qui ont été reconnus justement par l'Église elle-même, parce que on ne s'auto-envoie pas en mission. Je veux dire, on est toujours envoyé en mission par le Seigneur lui-même et ici-bas, on doit toujours être confirmé par l'Église. On a à recevoir de l'Église elle-même, notamment dans les discernements qu'elle peut nous apporter, dans les confirmations, dans les soutiens qu'elle peut nous apporter dans certaines difficultés. Et puis nous-mêmes, en étant ce que nous sommes, on enrichit l'Église. Donc c'est extraordinaire, en fait, on s'enrichit mutuellement en permanence.
Des propos recueillis par Jean-Benoît Harel. Et puis le pape retrouvera demain soir les membres des mouvements, associations, communautés nouvelles lors de la vigile de Pentecôte, à suivre en direct sur vaticannews.va. Léon XIV conclura leur jubilé dimanche lors de la messe de la Pentecôte à partir de 10h30. Ce vendredi, plusieurs audiences pour le pape. Au Vatican, en Moselle, il a reçu le président italien Sergio Mattarella. Léon XIV a également accueilli les supérieurs de 3 communautés religieuses lors de la même audience. La Société des missions africaines, qu'il a encouragé à être libre et paisible face aux railleries parfois du monde. Il a insisté sur le charisme pénitentiel du tiers ordre de Saint-François. Quant aux serviteurs du Paraclet, une communauté née aux États-Unis pour soutenir des prêtres alcooliques, il a recommandé un ministère d'accompagnement humble, patient, délicat et discret auprès des personnes blessées en profondeur. Au Soudan, l'Organisation internationale pour les migrations annonce le retour chez elle de 1,1 million de personnes déplacées à la faveur des récentes victoires de l'armée. Une bonne nouvelle dans un contexte désastreux depuis le déclenchement de la guerre entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide. C'était le 15 avril 2023, il y a plus de 2 ans. Les précisions d'Addis Abeba d'Augustine Passy.
La tendance s'est inversée depuis décembre 2024, selon la courbe publiée le 5 juin par l'Organisation internationale des migrations. Alors que le nombre de personnes déplacées par les combats augmentait régulièrement depuis avril 2023, ce chiffre commence à baisser. L'agence onusienne estime que le Soudan compte désormais 13% de déplacés en moins comparé au début de l'année. En cause, les victoires des troupes régulières du général Abdel Fattah al-Burhan, d'abord dans les états du Sennar et d'Al-Jazira et plus récemment à Khartoum. Ces gains sur le terrain s'accompagnent d'une intense propagande de Port-Soudan pour faire revenir les quelques 11,86 millions d'individus qui n'ont pas encore regagné leur foyer. Or, ceux qui ont fait ce choix sont confrontés à une situation économique et sanitaire catastrophique. Beaucoup de maisons ont été pillées, tandis que de nombreuses infrastructures ont été bombardées. Le manque d'accès à l'eau propre a entraîné une épidémie de choléra qui a déjà fait au moins 1721 morts. Dans le même temps, le tableau continue à s'assombrir au nord d'Arfour, où la prise du camp de Zamzam par les FSR mi-avril a jeté environ 600 000 individus sur les routes. Addis Abeba, Augustine Passy pour Radio Vatican.
Et au Soudan, 5 travailleurs humanitaires ont été tués lors d'une attaque brutale contre un convoi commun d'aide à El Fasher dans le nord du Darfour. L'OIM dénonce un crime délibéré. Au Mali, l'armée s'est retirée de Boulkessi, l'un des principaux camps militaires dans le centre du pays. Une décision prise après 2 attaques attribuées à des djihadistes. Hier, plusieurs militaires auraient été tués, alors que déjà dimanche, au moins 30 soldats du camp avaient perdu la vie. La RDC n'est pas concernée, mais le Congo-Brazzaville frontalier, lui, oui. Les ressortissants de 7 pays africains, Soudan, Tchad, Somalie, seront interdits d'accès au territoire américain à compter du 9 juin prochain, soumis au nouveau travel ban du président américain, une politique à géométrie variable que dénonce Amnesty International. L'ONG y voit une mesure discriminatoire, raciste et carrément cruelle. Citation. Et puis au Bangladesh, faute de financement, certaines écoles des camps de réfugiés Rohingyas ne rouvriront pas à la fin des vacances de l'Aïd al-Adha, la grande fête de l'islam qui commence ce jour. L'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, est en effet contraint de licencier plus d'un millier d'enseignants travaillant dans des écoles maternelles ou primaires auprès des enfants réfugiés. Une lourde décision, Marie Norio.
Oui, une décision, Marie, qui fait suite aux coupes de financement, notamment des États-Unis. Les États-Unis qui sont de loin le principal donateur de nombreuses organisations humanitaires. À la prochaine rentrée, fin juin, ce sont plus de 1100 professeurs et personnels des écoles maternelles et primaires qui ne retrouveront pas leur poste dans les écoles des camps de Rohingya, notamment à Cox's Bazar. Et des milliers d'autres enseignants sont menacés, avertit déjà l'UNICEF. La présence des professeurs à la rentrée dépend littéralement de l'obtention de nouveaux financements. Pour assurer le minimum d'éducation, l'UNICEF a besoin de 2 millions de dollars par mois. Plus d'un million de personnes Rohingyas vivent dans les camps de réfugiés au Bangladesh. Des milliers d'enfants sont nés sur place et ne connaissent que la vie dans les camps. La fermeture de ces écoles de l'UNICEF signifie pour 300 000 enfants la fin d'un accès à l'éducation de base, lecture et mathématiques. Et cela pourrait engendrer une génération entière de réfugiés sans accès à l'éducation. Des enfants pour qui les écoles de l'UNICEF sont les seuls moyens de repousser les mariages précoces ou encore les enrôlements dans les différents groupes armés.
Merci Marie Norio. Et puis toujours au Bangladesh, des élections ont lieu en avril 2026. Ce seront les premières depuis le renversement l'an dernier du gouvernement par une révolte. Le chef du gouvernement provisoire prix Nobel de la paix, Mohamed Yunus, en a fait l'annonce aujourd'hui. L'Inde n'est pas membre du G7, mais le Premier ministre Narendra Modi sera bien au Canada ce mois-ci pour le sommet du groupe des 7. Il a été invité par son homologue Mark Carney. En signe d'apaisement, les liens entre Ottawa et Delhi étaient tendus après des accusations concernant l'implication de l'Inde dans l'assassinat d'un Sikh canadien, accusation rejetée par l'Inde. Et puis en cette fête de l'Aïd qui commence, il est impossible ou presque pour les Palestiniens de rendre hommage à leurs morts. Inconcevable à Gaza de sacrifier un agneau. La règne, la famine et la peur. Ce vendredi, l'armée israélienne a appelé à évacuer plusieurs quartiers de Gazaville. Colère au Liban après que le ministre israélien de la Défense ait indiqué vendredi que l'armée continuerait de frapper Beyrouth si le Liban ne désarmait pas le Hezbollah. Les menaces du chef de la diplomatie israélienne interviennent au lendemain d'une série de frappes ayant détruit des bâtiments à Beyrouth Sud.
Après le président Joseph Aoun et le premier ministre Nawaf Salam, c'est l'armée libanaise qui a exprimé sa colère ce vendredi suite aux frappes et aux menaces israéliennes. Dans un communiqué, l'armée libanaise a averti qu'elle pourrait suspendre sa coopération avec le comité international de surveillance du cessez-le-feu entre le Liban et Israël, dirigé par les États-Unis et la France. C'est la première fois que l'armée envisage une telle mesure depuis l'entrée en vigueur de la trêve le 18 février. Le texte indique qu'Israël a refusé jeudi que l'armée libanaise inspecte les bâtiments suspectés d'abriter les infrastructures militaires du Hezbollah. L'aviation israélienne a mené une vingtaine de raids sur la banlieue sud de Beyrouth, malgré la proposition de désescalade soumise par le Liban au comité de surveillance. L'armée libanaise a indiqué qu'Israël intensifie ses agressions contre le Liban, avec ses frappes sur différentes régions, l'occupation de territoires libanais et les violations quotidiennes de la souveraineté du pays. Ce vendredi, des drones israéliens ont survolé la banlieue sud de la capitale, visée la veille par 7 vagues de raids qui ont fait trembler les murs à Beyrouth et ses environs. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Une excellente fin de semaine à tous.